Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux et si curieux. Les Montards Associés sont heureux d'accueillir Claude Pelblet, voilà, qui a l'immense gentillesse de nous offrir cette conférence. Je vais faire bref. Vous êtes enseignant à la fac et dans de nombreuses écoles de cinéma de par le monde entier.
Bon, ils arriveront bien. Je suis au bord de la retraite, surtout.
Et lorsqu'on vous a contacté pour faire cette réunion, vous nous avez répondu avec enthousiasme. Ce que j'aime, moi, c'est confronter mes théories aux praticiens.
C'est vrai.
Donc vous êtes servi parce que dans la salle, il n'y a quasiment que des monteurs et des monteuses. Voilà. Et merci encore.
Merci. Oui, bonsoir. Nous avons 2 heures devant nous pour parler du montage que vous connaissez mieux que moi, parce qu'en fait, la pratique, c'est la meilleure de toutes les théories. Et je commencerai par dire que tout ce que je sais sur le cinéma, je l'ai appris grâce à vous, les praticiens et les praticiennes du cinéma. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que j'aurais pu inventer sans la pratique et le métier et le savoir-faire qui s'accumule tout au long de la vie et qui permet aux grands films d'exister. Bon. Alors, ceci étant dit, ce que je vais essayer de faire, c'est de placer quelques mots sur des pratiques. Et j'espère, évidemment, que vous m'arrêtez, que vous intervenez en disant « Mais non, c'est pas tout à fait ça, il y a ça aussi, et puis il y a ça, il y a ça. » Parce qu'en fait, la théorie, quand elle vient de la pratique, elle essaye de mettre des mots sur des choses qu'on fait intuitivement. Et donc, je vais essayer de placer quelques idées, en commençant tout de suite par le fait que, quand on monte, on a plusieurs échelles de temps dans la tête. Tout le monde connaît les cartes au 20 millième, les cartes au 10 millième, les cartes au 500e, les cartes au 2 500 millième. Eh bien, il me semble qu'on a plusieurs échelles de temps quand on va regarder la mémoire sensorielle lors du micro-raccord, la mémoire immédiate sur quelques secondes, la mémoire du plan, la mémoire de la séquence, la mémoire des tensions internes accumulées dans la dite séquence, la mémoire, les rémanences diverses et variées de tous les agissements des personnages, des conflits de situation qui construisent un acte, la mémoire de l'acte qui va transformer en acte suivant et en dénouement, et même la mémoire du vécu qui donne sens au film, puisque chaque film n'est qu'une proposition qui tombe de l'écran. On va le voir. Hein. Chaque film est une proposition qui tombe de l'écran. Aussitôt, le spectateur ajoute tout ce qu'il sait à ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et donc, c'est une coproduction instantanée produite par la pensée en image qui est maîtresse du jeu. La pensée en image se distingue de la pensée verbale. La pensée verbale, on ne va pas en parler, tout le monde sait ce que c'est. Le verbe, le procès verbal, tout le monde sait ce que c'est. Et le procès imageant, oh là là, c'est quoi ça le procès imageant? Eh bien, ça veut dire qu'il y a quelques concepts qui vont nous être utiles pour comprendre comment fonctionne l'image. On va distinguer deux champs. Le corporel et le non-corporel, parce que ça ne mobilise pas les mêmes structures dans le cerveau. Donc le corporel et les objets, pour simplifier, parce que en 2 heures, on n'a pas le temps d'aller trop. Oui, mais il faut être clair, il faut être simple, et simple et clair. Donc le corporel, ça va déchaîner le concept d'inférence, que je vais expliquer. Et les objets, ça va déchaîner le concept d'affordance que je vais expliquer. Ce sont deux gros mots qui font peur, mais quand je vous aurai expliqué, vous direz « Ah, ce n'était que ça !» Ah bah oui, bon, bah, d'accord. Et donc, l'affordance, c'est quoi une affordance? Ça vient de Gibson, 1960, le verbe anglais « to afford ». À quoi ça sert un objet? Un trottoir est marchable. Un jus d'orange est buvable. Une chaise, ben on peut s'asseoir dessus. Un flingue, ça tue. Un jus d'orange, ça se boit. J'ai déjà dit, je ne sais plus. Bref, une tasse à café. Toutes choses ont immédiatement... immédiatement des affordances, c'est-à-dire des valeurs d'usage immédiates, plusieurs. Par exemple, une bêche. Ça sert à quoi une bêche ? À bêcher son jardin. Mais ça peut servir à tenir la porte branlante d'un garage. Ça peut servir à tuer et même à enterrer la victime. Donc, selon le contexte, la bêche que je vois dans le champ, filmée en plan, là, en plan serré ou en amorce, ça va avoir du sens. Hein. Et le spectateur ne va pas dire « Attendez, je place mon affordance sur la bêche. » C'est instantané et sans délai. Par exemple, je vois une ambulance qui s'approche en clignotant bleu d'une maison. Bon. Voilà deux objets, la maison et l'ambulance. Je vais faire du montage d'affordance. Qu'est-ce que c'est qu'une ambulance ? C'est un véhicule destiné à transporter les malades ou les blessés ou les personnes en danger. Qu'est-ce que c'est qu'une maison ? C'est un lieu où on vit, c'est un espace privé, domestique. Donc, qu'est-ce que c'est que cette ambulance qui s'approche de la maison ? Ce sont deux objets. Que fait le spectateur dans sa tête ? Il dit « quelque chose de grave est arrivé ». Pourtant, il n'y avait que deux objets. C'est par les connaissances qu'il a des objets qu'il a fait le montage d'affordances dans sa tête et qu'il s'est dit quelque chose de grave. Il se l'est dit sans le prononcer. C'est-à-dire qu'on est dans la pensée en image, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots. C'est propositionnel, c'est ressenti et ça n'a pas de mots. Il se le dit sans le dire. Mais quand vous êtes sur la table de montage avec votre assistante ou votre assistant ou votre réalisateur, là on parle. Donc là il faut mettre des mots, et c'est bien le problème des pratiques, c'est qu'il faut mettre des mots sur ce qu'on fait. Enfin, j'en sais rien, mais c'est comme ça vu d'avion, mais il me semble qu'on essaye de mettre des mots, parfois ça frotte, parfois c'est OK. Et donc le premier concept que je propose, c'est affordance. À quoi sert un objet ? Donc, j'ai pris l'exemple de l'ambulance. Maintenant, vous faites rentrer une jeune femme qui court par le bord cadre droit et qui arrive vers la maison elle aussi. Vous ajoutez un corps en mouvement. Et là, ce n'est plus une affordance, c'est une inférence. Vous voyez la scène. Gauche cadre, une ambulance approche la maison. Droite cadre, il y a une jeune femme qui court, rentre dans le champ, court de dos vers la maison. Mais ça y est, le récit est commencé. Parce que l'inférence porte en avant quelque chose. Le mouvement corporel fait naître un futur, une causalité, une conséquence. Et donc on veut voir la suite. Pourquoi court-elle ? Et vous enlevez les propriétés pratiques de l'ambulance, vous enlevez les propriétés pratiques de la maison, qu'est-ce qui reste ? Quelqu'un qui court vers rien. Donc c'est la combinaison des inférences et des affordances qui fait qu'il y a du sens. Et le sens est entièrement puisé dans ce qu'on sait et ce qu'on ressent. Je prends un autre exemple stupide. Non, celui-là n'était pas suivi, mais voilà un peu simplet, je veux dire. Vous mettez des flûtes, puis un gâteau, puis une bouteille de champagne. Bon, là, vous faites du montage d'affordances. À quoi sert la flûte ? À quoi sert le champagne ? À quoi sert le gâteau ? Ben, ça sert à fêter l'anniversaire, mardi. Mais est-ce qu'on a besoin de dire « Ah, c'est un anniversaire ?» Non, on ne dit rien, c'est instantané. Donc, en fait, le cinéma muet contenait déjà des objets et contenait déjà des personnes, et ça suffisait amplement pour que le spectateur du muet reconstitue le sens de la scène. Donc, on va dire que la réalisation comme le montage, ce sont des gens qui disposent des choses pour que le spectateur se les approprie, se les fasse, comment dire, leur donne sans même y penser le sens qui leur est nécessaire. Donc, affordance, propriété pratique. Si je montre un œuf, par exemple, un œuf. Tant que je n'ai pas cassé l'œuf, je ne sais pas ce que c'est que cette coquille ronde, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc les affordances, elles sont variables selon les milieux sociaux, selon les personnes. Il y a des gens qui savent certaines choses, d'autres pas. Est-ce que si je filme un œuf, est-ce que tout le monde va comprendre que c'est un œuf avec quelque chose dedans ? Est-ce qu'il est cuit ou pas cuit ? Vous voyez, les affordances, ce n'est pas non plus des choses bétonnées. Il y a du flou, il y a de l'hypothèse. Et les inférences, on va voir après, je m'arrête là, j'ai presque fini le préambule. Les inférences, on va en distinguer de 5 sortes. Les mouvements corporels, on va prendre d'abord le mouvement des yeux. Le mouvement des yeux, les yeux font 20 grammes, ils sont très véloces, avec des accélérations considérables. Donc, le mouvement des yeux est très subtil, il est multicommandé par toutes sortes de déterminations intérieures. Donc, le mouvement des yeux, la vivacité de la prunelle, tout ça, c'est extrêmement futé et affûté. Je suis tombé dedans. Donc, les yeux, c'est la fréquence de rafraîchissement, c'est 15 millisecondes. Toutes les 15 millisecondes, on peut lire un nouveau mouvement. Le visage, 170 millisecondes. C'est pour donner un ordre de grandeur du temps nécessaire pour s'approprier une expression faciale. Donc, toutes les 170 millisecondes, nous disent les neurosciences, on peut recommencer une nouvelle expression. Et donc, ce qui se passe, et qui complique les choses, c'est que le mouvement enchaîne les expressions, et les enchaînées d'expressions sont encore plus complexes que les expressions successives A, B, C, D, E. Donc, nous voilà déjà dans une grammaire du temps. Donc, 15 millisecondes pour le mouvement du regard, 170 millisecondes pour le visage. Maintenant, il y a tête et cou. Est-ce que tout le monde connaît tête et cou? Là, on passe à 8 kilos. Hein. C'est plus 26 paires de muscles antagonistes qui tirent à Uadia, c'est 8 kilos. Tête et cou, c'est ça. Donc ça, c'est un mouvement extrêmement important au cinéma pour le raccord. Ça veut dire le personnage définit un nouveau champ d'appréhension et moi, spectateur, je veux voir. Tête et cou, un petit peu des épaules aussi. On peut encore accentuer avec les épaules. Bon, tête et cou, c'est le tiers de seconde, demi-seconde. Après, vous avez les déplacements. Là, c'est 60, 70 ou 80 kilos. Alors, pour savoir ce qui va se passer au-delà, il faut quand même un peu de... Là, par exemple, où est-ce que je vais, là? Vous inférez quoi, là? Je vais où, là? Donc, là, le déplacement, ça prend plus de temps. Par contre, Ça va très vite. Et les yeux, et l'usage. Voilà, donc j'essaye de dire en trois mots ce que c'est qu'une inférence portée par le mouvement. Une inférence, c'est une ouverture, un élargissement du présent vers le passé immédiat et le futur conséquent. Ce qui fait que le spectateur n'est jamais dans le présent, il est toujours dans une chaîne de présent élargi, relié à des causes et tourné vers des conséquences. Donc, le montage, c'est un métier difficile, Anita. Parce que croire que ce serait simplement coller des bouts ou faire des in et des out, c'est débile. Il s'agit de toute une mécanique subtile de transformer le temps réel en temps condensé, resserré, réarticulé comme jamais dans le réel. Puisque une histoire de 3 ans se raconte en 1 heure et demie, ou de 2 mois se raconte en 1 heure et demie, c'est rare qu'une histoire d'1 heure et demie se raconte en 1 heure et demie. En général, on est dans le temps elliptique, resserré, condensé, réarticulé. Et ceux qui ont vu un paquet de rush arriver pour un film voient ce que c'est que de réarticuler, de resserrer et de condenser. J'ai pas besoin de faire de schéma. Donc ce temps resserré va faire fonctionner et les affordances et les inférences. Le plus simple, c'est d'aller voir concrètement comment ça se passe dans le début d'un film. Parce que les débuts, c'est quoi les débuts? Le spectateur, je connais juste le titre et peut-être les comédiens qui vont jouer. Il connaît peut-être aussi l'auteur quand même, dans le genre de film où il a décidé de... d'aller voir tel film ou tel autre ce soir-là, bon, ouais. Donc, à part ça, il faut que les choses se posent sans qu'on voit qu'elles sont posées. C'est ça le problème du préconscient, voyez-vous. le spectateur doit rester dans le niveau préconscient et ça doit être décidé sur le plateau consciemment et sur la table de montage consciemment. Parce que, pas tout, hein, parce qu'il y a des choses qui échappent, heureusement, mais une bonne partie est sujette à discussion et à décision. Et ça, donc, placer consciemment des choses qui devraient rester préconscientes et quasiment transparentes pour le spectateur, ça, c'est un tour de force qu'on va voir se réaliser dans un premier exemple qui est ancien, très ancien. C'est juste pour qu'on voit un peu, qu'on voit un peu comment ça marche. C'est M. Le Maudit, archi connu, mais pas avec des affordances et des inférences. Je pense que j'en ai pas. Bon, je vous laisse regarder une fois les 6 premières minutes.